Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Embolie pulmonaire cause un remède. Chez une personne, il peut arriver qu'une ou deux artères du poumon soient obstruées. C'est ce que les spécialistes appellent embolie pulmonaire. Et selon le niveau d'obstruction, cette maladie peut avoir de graves conséquences sur le fonctionnement du cœur. Avec notre invité, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, qui est pneumologue de l'Université universitaire de Kinshasa, on va chercher à savoir quels sont, comment on peut bien reconnaître une embolie pulmonaire. Et puis, quelles sont les causes de cette maladie? Nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé par ces sujets. Vous pouvez appeler au 081-890-6394. Vous pouvez aussi faire un SMS au 081-711-5001, mais aussi la page Facebook Okapi Service sur laquelle vous pouvez poster votre réaction. On me fait signe que le professeur Dr Jean-Marie Kayembe est déjà en ligne. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation avec vous. On va parler de cette maladie à embolie pulmonaire. Alors, professeur, qu'est-ce qu'il faut d'abord comprendre exactement par embolie pulmonaire?
Bon, l'embolie pulmonaire, c'est l'obstruction de l'artère pulmonaire ou de l'une de ses branches par un corps étranger migrateur, donc qui se déplace et qui bouge. Et essentiellement, le premier corps étranger, c'est des caillots de sang. Un caillot qui viendrait d'ailleurs, des membres inférieurs par exemple. Mais il y a aussi des œufs de certains parasites comme le schistosoma. Il y a aussi les emboles graisseux, par exemple à l'occasion d'une fracture osseuse. Retenons globalement un caillot sanguin qui obstrue une artère pulmonaire ou l'une de ses branches.
Parce que vous avez parlé d'un caillot sanguin, on peut bien, si vous pouvez expliquer un peu davantage, c'est quoi un caillot sanguin et puis d'où peut provenir ces caillots sanguins?
Oui, c'est ça. Le caillot du sang, c'est le sang qui coagule, qui fabrique, qui fait une boule. Prenons simplement lorsque la chèvre est égorgée. On remarque, par exemple, au début, le sang coule et à un moment donné, vous voyez qu'il se constitue en boule et ces boules noirâtres de sang, c'est cela qu'on appelle un caillot sanguin. S'agissant de l'embolie pulmonaire, il y a des circonstances qui favorisent la non-circulation normale du sang, que nous appelons la stase. Parmi ces circonstances, vous avez l'alitement prolongé. Un malade qui est grabataire, qui ne bouge pas du tout, le sang ne circule plus beaucoup, il a tendance à coaguler. Et le caillot qui va provoquer l'embolie pulmonaire, dans 60% des cas, il provient essentiellement des membres inférieurs. Vous avez ce qu'on appelle la phlébite. La phlébite est une inflammation des veines, les veines des membres inférieurs essentiellement. Ne négligeons pas les douleurs de mollets en particulier, surtout lorsque ça suit un long voyage où vous êtes resté recroquevillé, lorsque vous avez un métier sédentaire, vous êtes assis toute la journée pratiquement, douleur de mollet, n'est pas négligé, consultez un professionnel de santé pour savoir, parce que c'est souvent là le point de départ du caillot qui va boucher les artères pulmonaires.
Et c'est une maladie qui peut survenir à tout âge?
Effectivement, il n'y a pas d'âge pour l'embolie pulmonaire, mais évidemment, les seniors, les personnes âgées sont plus à risque à cause de la perte, justement, de la compliance de la paroi des vaisseaux. Les personnes âgées sont plus à risque de développer une embolie pulmonaire. Mais vous comprendrez qu'un jeune qui a des facteurs de risque vasculaire comme l'obésité, beaucoup de graisse, le cholestérol, l'hypertension artérielle et le diabète, est quelqu'un qui abîme les parois de ses veines et qui, de ce fait, est un candidat potentiel à développer des caillots anormaux qui vont constituer plus tard, en migrant, des emboles au niveau de la circulation pulmonaire.
Alors, pour ça, vous avez dit donc que l'embolie pulmonaire, il s'agit d'une ou deux artères du poumon qui sont obstruées par un caillot sanguin. Donc, à ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Le poumon et les sangs n'arrivent plus au poumon?
Eh bien, c'est ça. Vous savez que le poumon est l'organe par excellence qui permet d'oxygéner. Il prend l'oxygène de l'air et cet oxygène est transporté jusqu'au niveau des structures pulmonaires, traverse la membrane des poumons, parlons de manière plus simple pour nous faire comprendre, et l'oxygène est, à travers le sang, distribué à tous les organes qui en ont besoin. Le cerveau, le cœur, les reins, tout chez nous, même la peau, les ongles, ont besoin d'être vascularisés, ont besoin d'un apport d'oxygène pour fonctionner. Alors, lorsque le caillot bouche l'artère pulmonaire, vous comprendrez aisément, c'est comme ce que nous vivons tous les matins, en partant de l'université vers la ville, des bouchons au niveau déjà du rond-point GABA, etc., je pourrais dire du rond-point GABA que c'est un goulot d'étranglement, si on devait transposer, on dirait, il y a risque d'embolie pulmonaire au niveau du rond-point GABA. Attention, j'ai pas dit que celui qui était au rond-point GABA développe une embolie pulmonaire, c'est une image.
Oui. Voilà, alors il y a des signes qui permettent de reconnaître cette maladie. Est-ce qu'il y a des signes d'alarme?
Oui. Je dois vous dire que l'embolie pulmonaire de diagnostic est extrêmement difficile. J'ai entendu dans votre préambule quelque chose de très sage. Vous disiez, le degré d'obstruction de l'artère pulmonaire peut déterminer les manifestations que nous, en médecine, on appelle les symptômes. Mais j'ajouterai en disant, l'état antérieur du cœur et des poumons sont également une prédisposition. Je m'explique. Lorsque vous avez un bouchon qui obstrue à 10% le calibre d'une artère, les conséquences seront différentes d'un bouchon qui obstrue à 80%, donc les dimensions. Mais lorsque vous avez un cœur fatigué déjà pas par l'amour, mais par l'hypertension, le diabète, le cholestérol, etc., celui-là, même une obstruction de 10% peut être totalement nocive. Les signes de l'embolie pulmonaire dépendent en grande partie de ces deux paramètres, le degré d'obstruction et l'état antérieur. Mais en général, elle se manifeste par une difficulté respiratoire brutale. Le tonnerre dans un ciel serein. Vous avez brutalement la respiration qui change, qui s'accélère, qui devient difficile, souvent également s'accompagnant de douleurs thoraciques. Et là, ce sont des signes d'appel qui auront été précédés, nous l'avons dit, par éventuellement des douleurs dans une jambe, un mollet qui gonfle. La phlébite profonde est un signe d'appel. Mais malheureusement, cette affection extrêmement grave peut ne s'accompagner que des signes totalement fugaces et passagers. Vous avez ce qu'on appelle notamment la lipotimie. C'est comme si vous étiez en train de nager un petit peu. Je ne vous invite pas, Monsieur Ngombo, à fumer le joint. Mais lorsqu'on a, à l'occasion de ses 12, 13 ans, fumé un petit joint, on est dans les vapes, on nage, on fulmine. C'est un peu aussi là une manifestation parfois frustre de certaines formes d'embolie pulmonaire qui, alors, celles-là, sont des diagnostics extrêmement difficiles.
Alors, pour ça, vous avez parlé d'une difficulté respiratoire brutale et c'est cette difficulté respiratoire brutale, ça peut survenir à tout moment?
Oui, il n'y a pas d'heure pour. Hein. Vous savez, lorsque la circulation pulmonaire est compromise, comme nous le disons, le poumon qui apporte l'oxygène, qui est l'organe essentiel de la respiration, la grande circulation comme la petite, lorsque les poumons sont malades, mais les échanges gazeux entre l'oxygène qui doit entrer à l'intérieur étant perturbés, ben, le centre respiratoire qui est au niveau du cerveau est informé. Il sent qu'il y a péril en la demeure et directement la respiration peut devenir difficile. Une des caractéristiques de la difficulté respiratoire de l'embolie, c'est la dyspnée, c'est ça la difficulté respiratoire, qui s'installe de manière brutale. Mais en médecine, ni jamais, ni toujours. Il faut du flair, il faut d'autres connaissances, sinon vous poserez à tort et à raison, je ne vous invite pas à le faire, le diagnostic d'embolie pulmonaire au sortir de cette émission.
Voilà, embolie pulmonaire, cause de remède. Nous en parlons avec notre invité, le professeur Dr Jean-Marie Kaimé, qui est pneumologue au Clinique Universitaire de Kinshasa, mais aussi doyen de la faculté de médecine à l'Université de Kinshasa. Si vous êtes intéressé par ce sujet, nous rappelons le numéro des contacts, appelé au 081 890 63 94.
Votre connexion internet est trop lente? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mail. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio Okapi.net à votre service.
Voilà, on poursuit avec notre invité, le professeur Dr Jean-Marie Kaimé, avec qui nous parlons de l'embolie pulmonaire, sur les causes de remède. Alors, professeur, vous avez parlé des causes, mais aussi des signes. Alors, qu'est-ce qu'il en est du traitement de cette maladie?
Oui, le traitement de l'embolie pulmonaire passe par l'usage des médicaments, les médicaments qui empêchent l'agrandissement ou la croissance du caillot déjà constitué, ou mieux encore, des médicaments qui détruisent carrément ce caillot, nous les appelons les fibrinolytiques. Ce sont des médicaments qui, vous le voyez, ont tendance à faire saigner. Dissoudre un caillot, c'est le rendre plutôt fluide et c'est favoriser le saignement. Retenez donc que ce sont des médicaments qui, à l'autre bout, ont des conséquences qui peuvent être également très graves. Ils font saigner abondamment. Donc, le traitement est à base des médicaments qui empêchent la coagulation du sang ou qui détruisent carrément le caillot, mais sous une stricte surveillance médicale, parce qu'ils peuvent faire saigner méchamment.
Ah, voilà, vous avez parlé des médicaments qui vont permettre de détruire les caillots, mais vous avez également dit que selon le niveau d'obstruction de ces artères, cela peut aussi avoir des graves conséquences. Alors, est-ce que ça peut même amener une personne dans un état de choc?
Absolument. L'embolie pulmonaire massive est une des causes évidentes de ce que nous appelons le choc cardiogénique. Le choc cardiogénique est celui qui est dû à une défaillance du cœur, une maladie du cœur, comme l'infarctus, etc. Elle va conduire à un choc. L'embolie pulmonaire massive peut conduire à un choc cardiogénique et qui est mortel. C'est une maladie à potentialité très grave, à pronostic réservé. L'embolie pulmonaire nécessite une prise en charge. J'ai parlé des médicaments. Mais il faut savoir qu'avec l'importance, etc., le manque d'oxygène, vous comprendrez aisément qu'il s'accompagne le traitement, également des mesures de ressuscitation habituelles comme l'oxygénothérapie. Et lorsqu'il y a choc, on tente quand même de ramener la pression artérielle à un niveau convenable avec des médicaments, soit le remplissage, soit des amines qui vont permettre d'élever un petit peu la tension. Donc il y a des médicaments, des moyens thérapeutiques adjuvants qui accompagne les médicaments qui agissent directement sur la coagulation.
Nous avons direction, professeur, il y a par exemple docteur Bailanda Laurent qui nous écrit sur notre page Facebook depuis Boutembo dans le Nord Kivu. Il nous écrit ceci: les cas d'embolie sont très fréquents chez l'homme comme chez l'animal et il a toujours été difficile de les différencier d'autres troubles du genre comme la thrombose, l'infarctus et même d'autres troubles pulmonaire d'origine inflammatoire. Je préfère que l'invité nous en donne un diagnostic différentiel et les mesures de contrôle efficaces. Professeur, qu'est-ce que vous dites au docteur Bailanda Laurent?
Oui, je n'ai rien à dire s'agissant du monde animal. Je me suis jusqu'ici livré à soigner les humains. Donc, je n'ai pas envie de me disputer la palme avec mes collègues vétérinaires. Mais s'agissant de l'embolie pulmonaire chez l'homme, c'est vrai que la symptomatologie, respiration difficile et douleur ne sont pas l'apanage exclusif de l'embolie pulmonaire. Mais par contre, le diagnostic en médecine, il y a l'interrogatoire, il y a l'examen physique, mais il y a aussi des examens paracliniques, c'est l'ABC du diagnostic en médecine. Lorsque vous aurez un malade qui a une difficulté respiratoire, d'installation brutale, ou comme je vous ai dit, un petit peu l'hypotimique, l'interrogatoire retient chez ce patient, nous ne l'avons pas dit, qu'il revient de Hong Kong après un voyage en classe économique, jambes calfeutrées, etc., assis tout le temps, il développe le lendemain une petite douleur dans ses jambes. En ce moment-là, la sonnette d'alarme est tirée, le médecin se dit il pourrait s'agir de embolie pulmonaire. L'examen physique peut être totalement négatif. Rien de particulier, vous avez vu l'importance de l'embole, etc. Ou alors, si le retentissement est important, le patient peut être cyanosé, peut avoir une accélération du rythme cardiaque, de la respiration. Mais il y a, comme dans toutes les approches médicales, les explorations paracliniques. Et le gold standard pour le diagnostic de l'embolie pulmonaire, c'est la réalisation d'un scanner de vaisseau que nous appelons l'angioscanner. Je vous vois sursauter, surtout à Boutembo. L'angioscan, c'est déjà plus de $300. Ce n'est pas un examen routinier dans notre pays. Mais il y a d'autres explorations qui vous rapprochent, qui orientent, qui, mises ensemble, peuvent vous orienter, vous faire approcher d'un site d'embolie pulmonaire. Il y a notamment le dosage sanguin d'un produit de dégradation, des produits de la coagulation, que nous appelons les D-dimères. Lorsque les D-dimères, dans ce contexte clinique que nous avons évoqué, prenons l'exemple d'une dame qui vient de subir une césarienne, les interventions au niveau du petit bassin sont fortement emboligènes. Voilà pourquoi le gynécologue dira, après l'intervention, mobilisation précoce, bouger rapidement, immédiatement, et même marcher assez vite, c'est pour contrecarrer les effets néfastes de la stase sanguine. Les D-dimères peuvent augmenter. J'ai parlé de l'enjeu scanner, mais d'autres explorations indirectes comme l'échographie cardiaque et l'électrocardiogramme peuvent nous donner des signes indirects. Dispensez-moi d'enseigner ici le diagnostic de l'embolie pulmonaire. Nous sommes en fin d'année en ce moment, et d'ailleurs hier à l'UPC, j'ai posé mon examen de pneumologie. Donc je me garde de dispenser à la télévision ou à la radio, car que dis-je, un cours sur l'embolie pulmonaire. Allons plutôt à l'essentiel et aux choses qui peuvent être plus compréhensibles.
Voilà, merci. Je pense bien que docteur Bailanda Laurent, qui nous a écrit de Boutembo, dans le Nord Kivu, a pu vraiment trouver satisfaction à ces questions. Et là, on va retrouver des auditeurs qui sont en ligne. Vadame nous appelle d'Ondrele en province orientale, et Raphaël Tumungaita Lubumbashi au Katanga. Nous rappelons pour ceux, en tout cas, qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à appeler au 081-890-94. On prend Vadame Ndrele qui nous appelle de province orientale. Vadame qui est en Ndrele, en province orientale. Vadame, bonjour.
Bonjour, la radio Capi. Je réponds à Doué Chimérou, Vadame Ndrele. Je voudrais demander à l'évitaine quelles sont les causes iatrogènes et endogènes de cette pathologie. Et encore, je voudrais demander quelles sont les mesures préventives pour cette maladie. Ensuite, je voudrais demander si les régimes alimentaires, quels sont, qui sont à la base de cette pathologie, et quels sont les régimes qu'on peut éliminer pour un malade pour une personne qui est atteinte de cette pathologie. Je vous remercie beaucoup.
Merci aussi à vous, à Vadame, depuis Ndrele en province orientale, Raphaël Tumunga, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. Bonjour Raphaël.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
J'ai une question à poser à notre invité. Qu'est-ce que fait le médecin face à un soupçon d'embolie pulmonaire?
Voilà, que fait le médecin face à un soupçon d'embolie pulmonaire? Merci Raphaël Tumunga d'avoir pu de Lubumbashi au Katanga. Professeur Jean-Marie Kayembe, on revient à vous. Et vous avez suivi Vandamé, qui doit être certainement du domaine, qui a parlé de causes iatrogènes et endogènes. Si vous voulez d'abord bien expliquer qu'est-ce qu'on entend par iatrogènes et puis endogènes, et puis vous allez répondre à sa question.
Oui, cause endogène, cause iatrogène. Iatrogène, ce serait de causes liées à des médicaments. Ben, je dois rappeler aux collègues que tous les médicaments qui agissent en exaltant, en stimulant davantage la coagulation, je vois déjà les œstroprogestatifs, les contraceptifs que prennent les femmes éventuellement pour...
Le poste est en ligne, mais moi j'ai plus le retour assis au niveau de la réalisation. On peut me dire, avoir le retour. Bon, on a, les postes n'est plus en ligne, mais on va le retrouver tout à l'heure. Il n'y a pas à s'inquiéter pour cela. Donc, nous sommes en train de parler de l'embolie pulmonaire cause remède avec le professeur Jean-Marie Kaimbe, qui est pneumologue et universitaire de Kinshasa et doyen de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Vous avez suivi, le professeur a parlé des causes de cette maladie, et le professeur a également dit que c'est une maladie dont souvent les signes sont fugaces, hein. C'est mais il peut arriver que la personne qui souffre de cette maladie a une difficulté respiratoire brutale. C'est un signe majeur qui peut faire penser à une embolie pulmonaire, qui est en fait l'obstruction des artères du poumon, des artères pulmonaires. Et lorsque vous avez une difficulté respiratoire brutale, par rapport à cela, il faut un diagnostic. Il faut aller se faire consulter, c'est au médecin de déterminer s'il s'agit réellement l'origine réellement une embolie pulmonaire, et cela peut survenir à tout âge, hein. Les enfants, les personnes adultes sont tous concernés par cette maladie. On me fait signe que le professeur est de nouveau en ligne. Professeur Dr Jean-Marie Kaimbe, vous êtes de nouveau en ligne. On est en train de répondre aux causes iatrogènes et endogènes de l'auditeur qui nous a de l'embolie pulmonaire. Allez-y, professeur, vous êtes à nouveau en ligne.
Merci beaucoup. On a eu le malheur que l'on a souvent quand on est en ligne. Mais bon, s'agissant des gènes, à ma connaissance, il n'a pas été à ce jour identifié des gènes qui prédisposaient à l'embolie pulmonaire. Mais c'est pour répondre en même temps à celui qui parle alimentation ou nutrition. Tous les facteurs athérogènes, donc qui vont provoquer l'athérosclérose, qui vont agir sur les vaisseaux, donc notamment toutes les alimentations, etc., qui vont favoriser le cholestérol, la graisse, vont agir sur la paroi du vaisseau. Et la paroi du vaisseau qui perd son élasticité, vous comprendrez aisément qu'elle devient en elle-même, avec l'enveloppe à l'intérieur du vaisseau, un lieu à risque de développer ou de libérer plus de facteurs de coagulation. Il y a donc, là on peut le dire, un lien indirect, mais en passant par d'autres pathologies globales comme l'hypercholestérolémie, etc. Donc, en général, quelle est l'alimentation mauvaise pour peut conduire à l'embolie pulmonaire? Il n'y a pas de réponse directe à celle-là. L'indirect étant tout ce qui peut favoriser le diabète, tout ce qui peut favoriser l'hypertension, la rétention de sel, etc. Mais il faut savoir, le patient qui a une embolie pulmonaire sous traitement doit éviter, surtout lorsqu'il prend les anti-vitamine K, doit éviter certains aliments, comme certains légumes, les choux, le fromage, des choses comme ça, qui peuvent interférer avec l'efficacité du médicament anticoagulant.
Voilà. Mais il y avait également l'auditeur de Lubumbashi qui a posé la question de savoir qu'est-ce qui peut tirer la sonnette d'alarme, hein, lorsque vous avez en face de vous une personne qui a de problèmes respiratoires. Qu'est-ce qui peut tirer la sonnette d'alarme pour dire que ça peut s'agir d'une embolie?
Ce qui peut vous faire dire, j'ai présenté tout un contexte. Le contexte, c'est celui de facteur de risque. Vous recherchez, est-ce que cette personne a des facteurs de risque? Il y a ce que nous appelons, il y a une triade. Tout ce qui peut favoriser la stase. La stase, c'est la non-circulation du sang. Comme un voyage très longtemps assis, l'état grabataire, assis du matin au soir au travail, le malade qui reste grabataire et qui ne bouge pas. Tout ce qui peut léser les vaisseaux, donc les interventions chirurgicales au niveau du petit bassin, au niveau du genou, fracture des hanches, etc., qui empêchent la mobilisation, ça, ce sont des facteurs de risque qui peuvent entraîner. Donc, vous interrogez le patient, vous voyez quel est le risque qu'il peut avoir. Il y a des risques majeurs, et ces risques majeurs, en présence d'une respiration difficile, peuvent vous faire dire qu'il y a peut-être bien une embolie pulmonaire. J'ai parlé du sujet qui revenait de Hong Kong après plus de 6 heures de vol. C'est un risque réel éventuel d'embolie pulmonaire. La sonnette d'alarme est tirée pour le médecin qui regarde par soit la fréquence respiratoire. Si la fréquence respiratoire est très élevée, si le malade est cyanosé, il devient bleu, s'il a des troubles de conscience, si vous remarquez que sa fréquence cardiaque est anormalement élevée, là aussi vous avez des signes d'alarme éventuelle. Mais en milieu hospitalier, nous avons ce qu'on appelle, et c'est très facile, la saturation en oxygène qui peut être prise par un petit capteur au niveau du doigt tout simplement. La tension artérielle, la fréquence respiratoire dont j'ai parlé, sont autant de mesures qui peuvent montrer la sévérité éventuellement d'embolie pulmonaire.
Voilà, un autre auditeur en ligne, c'est Jean Mukendi qui nous appelle de Lubumbashi au Katanga. Jean Mukendi, bonjour.
Bonjour, bonjour la radio Kapi et aussi à l'invité du jour.
Alors, quelle est votre question sur l'embolie pulmonaire?
Ah oui, c'est une petite préoccupation. La première, c'est celle-ci. Je demande à l'invité qui puisse nous donner une lumière. Et en cas de l'examen paraclinique, nous devons retenir quoi? Et deuxièmement, je voulais aussi demander dans ce cas de l'embolie pulmonaire, quels sont les signes vitaux qu'il faut vraiment surveiller? Parce que notre invité nous a donné tout ce qu'il faut. Mais dans le cas des signes vitaux, quels sont les signes qu'il faut surveiller dans le cas de l'embolie pulmonaire? Merci.
Merci à Jean Mukendi d'avoir appelé de Lubumbashi au Katanga. Professeur Jean-Marie Kaimé, qu'est-ce que vous dites à Jean Mukendi?
Oui, à Jean Mukendi, je dirais, s'agissant des examens paracliniques, des plus simples aux plus compliqués. La radiographie du thorax n'est pas toujours parlante, mais il y a des petits signes indirects qui peuvent orienter. Elle ne confirmera jamais le diagnostic d'embolie pulmonaire. C'est par exemple lorsque vous avez un petit signe d'épanchement liquidien, donc un émoussement d'un cul de sac, c'est ce que disent les radiologues, ou une surélévation anormale d'une hémicoupole. Oubliez directement la radiographie du thorax. L'électrocardiogramme, il y a des petits signes à l'électrocardiogramme qui orientent sans confirmer l'embolie pulmonaire. Et ensuite, au niveau des examens de sang, vous aurez la saturation en oxygène qui peut déjà montrer qu'elle est basse lorsque l'embolie pulmonaire est sévère. Vous avez l'équilibre acide-base au niveau du sang, la pH métrie, comme on l'appelle, qui peut montrer en général des signes avec peu de dioxyde de carbone, donc la PaCO2 qui diminue, mais aussi la pression partielle en oxygène qui diminue. C'est assez complexe, ne nous perdons pas là-dedans. Mais l'examen de confirmation de l'embolie pulmonaire, je l'ai dit, je le répète, c'est l'angioscanner, le scanner des vaisseaux qui, lui, va dessiner et montrer au niveau des artères pulmonaires à quel niveau se trouve le stop. Je voudrais simplement dire qu'un scanner, dans les hôpitaux qui le pratiquent, c'est déjà près de 300 $. Vous comprenez bien combien de personnes peuvent y accéder. Et deuxième possibilité, c'est le scanner hélicoïdal qui est à même de réaliser cet examen angioscanographique. Dans la ville de Kinshasa, si la mémoire ne me trahit pas, il y a peut-être simplement 2 ou 3 endroits où le scanner hélicoïdal peut à l'heure actuelle être réalisé. J'interdis aux auditeurs de me demander à quel endroit. Je ne suis pas payé pour indiquer aux gens où ils peuvent faire éventuellement un scanner hélicoïdal, etc. De toutes les façons, ce n'est pas le but de l'émission.
Ouais, mais pour ce
s'agissant des signes vitaux, il a bien voulu savoir quels signes vitaux surveiller. Eh bien, vous surveillerez la fréquence respiratoire, vous surveillerez le pouls et la tension artérielle du malade, ça c'est l'hémodynamique. La surveillance est également neurologique, vous regardez l'état de conscience du malade. Plus loin en hospitalisation, est-ce que le malade continue d'uriner, conserve une diurèse, parce que là, lorsque l'hémodynamique, la pression artérielle s'effondre, là c'est beaucoup plus longtemps, le malade peut se retrouver oligo ou anurique, donc n'urinant pas suffisamment. Essentiellement, état de conscience, l'état cardiaque par le pouls et la tension artérielle, mais également la fréquence respiratoire pour voir si le malade est en détresse ou pas.
Voilà. On poursuit avec vous, professeur Jean-Marie Kaimbé. Vous êtes pneumologue universitaire de Kinshasa et avec vous, on parle de l'embolie pulmonaire. Nous avons une dame en ligne, Esther Oubedi, qui nous appelle de Haro, en province orientale. Esther Oubedi, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Esther Oubedi. Quelle est votre question sur l'embolie pulmonaire?
Oui, merci pour l'expliquer. Je voulais juste savoir, en cas de d'embolie pulmonaire justement, soit dans les hôpitaux, parce que je suis du domaine médical, on nous demande souvent pour éviter l'embolie pulmonaire dans les gestes de soins de tournée. On nous demande particulièrement après une chirurgie, par exemple, on nous demande de changer la position des malades au moins chaque 2 heures. C'est ce qu'on nous demande souvent pour éviter l'embolie pulmonaire. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'à part ces gestes-là, le changement de position des malades après une chirurgie, est-ce qu'il n'y a pas d'autres gestes qui sont encore pratiqués dans les soins infirmiers, justement, pour éviter ces malades?
Merci. Voilà, merci à Esther Obedi, merci d'avoir appelé le Haro en Provence orientale. Professeur Dr Jean-Marie Kaembe, qu'est-ce que vous dites à Madame Esther Obedi qui est infirmière?
J'ai dit à Madame Esther que je suis d'abord très heureux de parler en direct à Haro. C'est aussi ça le rôle d'une radio, il me semble. Alors, Madame, certains gestes peuvent être considérés comme des gestes ordinaires, mais sauver toute une vie. Le lever précoce, le changement de position de votre malade grabataire met déjà en mouvement le sang et lutte contre un des facteurs clés de l'embolie pulmonaire qui est la stase, donc la stagnation, le fait que le sang ne circule pas à vitesse d'eau. Donc déjà, cette vitesse-là, ce geste-là, changer la position du malade, bouger les membres, surtout les membres inférieurs. N'oubliez pas que la thrombose veineuse profonde, c'est surtout celle qui vient du membre inférieur, dans plus de 60% des cas, qui va provoquer l'embolie pulmonaire. Le lever précoce, le changement de position sont déjà des gestes tout à fait salutaires. Maintenant, des personnes qui ont des risques un petit peu plus importants, qui ont par exemple déjà une mauvaise circulation, vous avez vu des femmes qui ont parfois des varices, etc., au-delà de ce mouvement, certaines petites mesures pharmacologiques simples peuvent être appliquées, c'est la prise notamment de l'aspirine. L'aspirine junior, l'aspirine cardiologique à 100 mg peut être administrée par le médecin madame, pas par le sujet lui-même, parce que même l'aspirine n'est pas sans effet délétère, effet désagréable comme déjà l'ulcère à l'estomac, la plaie à l'estomac. Donc, c'est surtout toutes ces mesures, bouger, changer la position de tous les malades graves. Les malades grabataires, c'est un geste qui peut leur sauver la vie, qui peut prévenir la survenue d'une embolie pulmonaire. J'aimerais davantage insister là-dessus.
Voilà, professeur, puisque vous avez parlé, vous avez vraiment insisté sur le fait que parmi le facteur qui peut amener à l'embolie pulmonaire, c'est vous avez cité par le cas du sang qui stagne, surtout au niveau de membres inférieurs. Vous avez, et par exemple, parlé également de douleurs au niveau des mollets lorsqu'on fait, par exemple, un long voyage. Alors, est-ce qu'il y a moyen de prévenir cette maladie? Il y a des petits gestes conseillés dans la vie de tous les jours pour vraiment éviter peut-être que l'embolie puisse survenir?
Oui, tout à fait. Des sujets à risque, comme je le disais, les obèses ou les malades graves qui doivent prendre l'avion. Aujourd'hui, les gens vont en Inde pour des soins. Eh bien, ces malades-là, nous leur administrons, sous surveillance et contrôle médical, des médicaments qui sont utilisés à certaines doses un peu plus élevées pour déjà empêcher la croissance du caillot du sang. Je parle ici aux heparines de bas poids moléculaire qui peuvent être administrées tout simplement par la voie sous-cutanée avant le voyage ou avant une intervention à risque comme la césarienne pour certains ou simplement une chirurgie de la hanche ou du genou. Mais s'agissant de l'avion par exemple, c'est là où il est conseillé, vous avez vu que les avions aujourd'hui, les longs courriers, ont quand même des petites bascules sur lesquelles vous pouvez, comme en faisant du piano ou en faisant le tailleur ancien dans nos pays avec la machine à pédaler, eh bien, ce geste de pédaler bouge déjà un petit peu, ou alors simplement ne pas se priver de boire quand même lorsqu'on est dans l'avion, etc., pour ne pas se déshydrater et à cause de tracasseries éventuelles que l'on a dans les aéroports, on s'énerve, on transpire, on ne boit pas assez, c'est pas l'idéal. Mais si vous commencez à circuler, à arpenter les artères de l'avion, ne serez-vous pas considéré comme le futur terroriste? C'est un peu ça le risque. il y a jamais, le risque zéro n'existant pas, il est parfois conseillé à des personnes qui ont généralement des jambes lourdes et difficiles de circuler un petit peu en ayant réuni toutes les autorisations auprès des hôtesses de l'air, évidemment.
Alors, pour se danser, si je comprends bien, si vous parlez des avions, par exemple, il faut de temps en temps peut-être se lever pour se dégourdir un peu les jambes. Donc, c'est ça peut être également le cas pour des personnes qui voyagent par route sur des longs trajets. Donc, c'est bon aussi, de fois, lorsque quelque part le conducteur s'arrête pour permettre aux gens de descendre et de se dégourdir un peu les jambes. Tout ça, c'est bon aussi.
Ça devrait, parce que le fait d'être cloîtré dans un siège avec un périmètre d'un demi-mètre cube, etc., ben oui, vous comprenez que c'est valable pour l'avion, ça l'est également. Mais même pour l'avion, c'est en général, les études le disent que c'est des vols au-delà de 8 heures, quoi, hein, 6, au-delà de 6 à 8 heures. Un vol de 16, 18 heures, absolument, c'est déjà un vol à risque. Il y a moins de risques, le risque zéro n'existant pas, avec des vols de moins de 6 heures, par exemple. Mais lorsque vous allez chez nous, il y a des voyages en camion qui prennent facilement plus de 24 heures. Le risque est tout à fait le même si la personne ne bouge pas. Il serait tout à fait conseillé que l'on s'arrête quelque part, les gens se dégourdissent un petit peu les jambes, reprennent un petit peu d'eau, etc. C'est tout à fait conseillé, et les preuves que ça a un impact réel sur, en diminuant le risque de phlébite, etc., l'impact est tout à fait étudié et établi à l'heure actuelle.
Voilà, professeur Dr Jean-Marie Kaembe, on va s'arrêter par là. Tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous en direct sur nos antennes pour parler de l'embolie pulmonaire sous le cause remède. Merci vraiment d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir répondu aux préoccupations de nos auditeurs. Nous espérons vous retrouver prochainement pour un autre sujet sur la santé pulmonaire.
Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi aussi.